Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Voilà, il est pratiquement 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On va revenir sur la fin prochaine, on l'espère, du pass sanitaire en France à la faveur de la décrue de l'épidémie. Mais d'abord, ce coup de poignard dans le dos de la France. L'Australie vient de déchirer en 1000 morceaux le contrat signé pour la fabrication de 12 sous-marins français. Un contrat qualifié à l'époque par le ministre des Affaires étrangères de contrat du siècle puisqu'il se montait à 56 milliards d'euros. C'est un coup dur, bien sûr, pour l'entreprise avec 500 emplois menacés à la clé. Tout de suite, on va rejoindre sur place la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Bonsoir. Vous êtes à Cherbourg, devant l'entreprise Naval Group, où devaient se construire ces sous-marins. Quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce qu'il y a de la colère, de la déception?
Bien, effectivement, oui, l'ambiance est terne ici, vous l'imaginez, aux yeux du monde. L'excellence revendiquée par Naval Group s'est fait damer le pion par les Américains. Un contrat de 35 milliards d'euros qui s'envole et une collaboration déjà de 5 années avec les Australiens. Alors si officiellement, on vous assure que les difficultés seront surtout diplomatiques, qu'ici à Cherbourg, les 500 salariés dédiés au projet des 12 sous-marins australiens seront reclassés grâce à un territoire qui bénéficie du plein emploi, eh bien c'est très discrètement que le PDG de Naval Group a fait le déplacement depuis Paris cet après-midi, qu'il a expliqué à ses salariés qu'il n'avait rien à leur reprocher dans cette affaire purement diplomatique. Et puis très vite, c'est un autre enjeu qui est venu s'inviter ici à Cherbourg, celui de la propriété intellectuelle. En fait, la fin subite de ce contrat, c'est avant tout le risque d'une immense fuite des savoirs vers l'Australie.
Effectivement, merci beaucoup Sandrine Prioul de ces explications. Karim Zerebi, beaucoup d'incompréhension aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi nos partenaires australiens ont fait ceci. Et on imagine bien, évidemment, que les États-Unis, qui ont raflé la mise, ont beaucoup œuvré en coulisses.
Oui, Laurence, vous le dites très justement, 35 milliards donc, qui nous échappent, 500 emplois. Donc c'est un pan de l'industrie française qui est mis à mal. C'est l'attelage américano-anglais, hein, puisque c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont raflé ensemble ce contrat. C'est un coup de poignard dans le dos, évidemment, parce que nous étions convaincus de détenir le contrat du siècle dès 2016-2017, avec ces 12 sous-marins, 35 milliards d'euros. Tout était fait pour nous. Les dés étaient jetés. Et puis, on scellait une alliance sur 40 ans. C'était de ça dont il s'agissait dans le couple franco-australien qui était en train de se mettre en œuvre sur les échanges de savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui s'inscrivait dans la durée. Or là, les Américains et les Anglais, en catimini, nous ont piqué ce contrat. C'est les règles commerciales les plus cyniques et les plus cupides qui ont eu lieu. On voit bien que les alliés et que se considérer alliés a des limites dans ce genre de configuration où l'enjeu financier prend le pas
bien
sur
sûr.
Tout.
Joseph M. Scarron.
Il y a certainement des enjeux financiers, mais il y a aussi des enjeux géostratégiques également. On sait que depuis quelques mois, le torchon brûle entre la Chine et l'Australie et que l'Australie s'est considérablement rapprochée des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a un événement en France qui va avoir lieu bientôt, dont enfin, la plupart d'ailleurs des politiques ou des publicistes se moquent absolument éperdument, c'est le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 12 décembre prochain. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer
le 12 décembre ? Quel est le rapport ?
Oui. Le rapport, il est clair. C'est-à-dire que pour l'Australie, il s'agit de larguer les amarres par rapport à la France. Et évidemment, l'Australie fait tout, envoie des missionnaires ou autres pour que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante le 12 décembre prochain. Il y a une possibilité sur deux, vous vous rappellerez, une possibilité sur deux qu'en effet, cette fois-ci, la Nouvelle-Calédonie soit indépendante, ce qui quand même poserait un certain nombre de problèmes en France. Hein. L'uranium, enfin, etc., etc. Et évidemment, les premiers qui prendront pied, si je puis dire, sur le caillou, c'est évidemment l'Australie et les États-Unis. Donc, il faut aussi resituer ça. Bien sûr, il y a un enjeu financier, mais il y a un enjeu géostratégique beaucoup plus large. Et le problème, c'est que personne, en tout cas, personne dans l'exécutif, enfin, ils ne sont pas les seuls, l'a vu.
D'accord. Patrick Caram.
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, souvenez-vous, lorsque Macron est allé, le président de la République est allé en Nouvelle-Calédonie. Il a d'abord fait un passage en Inde et ensuite à Canberra. Oui. Et ensuite, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois qu'on voyait ça d'un président de la République. Il a fait un portrait géostratégique de l'utilité de la Nouvelle-Calédonie. Et il a assuré, quand il était à Canberra, aux Australiens, que jamais la Nouvelle-Calédonie ne serait indépendante. Parce que la vérité, c'est que les Australiens ont peur que la Nouvelle-Calédonie bascule sous le giron chinois. Personne ne peut prédire que ce sont les Américains ou les Australiens qui arriveront à mettre la main dessus. Moi, ce que je retiens sur ce nouveau développement, c'est trois choses. Premièrement, du point de vue géostratégique, America is back. Ils sont partis d'Afghanistan dans des conditions les plus déplorables et sans prévenir personne. Et là, ils nous damnent le pion sans nous prévenir. Ça veut dire qu'ils ont décidé...
C'est le Far West, hein.
Ils ont décidé de continuer la politique d'unilatéralisme. Et America is back. Et qu'est-ce qu'ils disent au monde en faisant
et
ça?
Et Biden, c'est Trump, donc.
Là, alors...
C'est pas loin, dit Jean-Yves Le Drian.
Trump posait, alors c'est ça que dit Le Drian, et il a tort. Trump, au plan international, avec respect tout le monde. Et donc, ce marché-là, c'était compliqué pour lui de l'avoir. Tandis que Biden est beaucoup plus subtil. Il est allé chercher le marché. Donc, juste un mot quand même sur sa politique. Sa priorité aujourd'hui, la priorité des États-Unis, en faisant ce contrat-là, c'est le containment de la Chine. Il veut dire aujourd'hui que sa priorité, ce n'est pas l'islamisme, c'est la Chine. Et qu'il va tout mettre en place pour lutter contre la Chine. C'est aussi, pour Boris Johnson, un succès diplomatique. Voilà, après le Brexit, on a dit Boris Johnson isolé, Boris Johnson largué, et voilà, et on allait voir ce qu'on allait voir. Il revient sur le devant de la scène et il signe avec les États-Unis et l'Australie un immense contrat.
Alors, et le fait de dire que le premier problème c'est la Chine, ça ne différencie absolument pas de Donald Trump.
Ah, mais c'est clair. Et Prisca, il faut pas penser. Tegno. Pardon, mais vous savez, les Français.
Allez-y, on conclut là-dessus, Patrick Karam.
Quand Biden a pris le pouvoir, j'ai entendu les cocoricos. Et moi, j'étais sur une antenne CNews à l'époque et j'ai dit attention. Biden, c'est du Trump, mais en plus pertinent dans la mesure où il ira chercher les contrats, parce que lui il va remettre les États-Unis dans le multilatéralisme pour continuer à avancer ses pions.
Au profit de son pays. Ben un voilà. Petit mot presque à Tegno de la République en marche.
Je vais aller dans votre sens, ça arrive de temps en temps, effectivement. Pour remettre dans le contexte, effectivement, on se souvient, c'était Trump ou Biden. Et oui, on peut quand même se satisfaire, en tout cas moi à titre personnel, que ce soit Biden et pas Trump. Par contre, le cocorito ne doit pas se transformer en naïveté. Et on voit effectivement que les États-Unis arrivent dans une dimension de toute puissance, d'hégémonie, où ils semblent balayer depuis quelques semaines, depuis quelques mois, d'un revers de la main, les anciennes alliances et ententes qui existaient entre la France et les États-Unis, mais également de manière plus générale entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, ça repose la question de l'importance de la présidence européenne que nous allons avoir d'ici quelques mois et quelques semaines pour réaffirmer notre importance économique, géopolitique et diplomatique. Oui, et donc, de gros enjeux sont devant nous.
C'est vrai sur la présidence d'Emmanuel Macron, mais moi quand même, au bout d'un moment, je m'inquiète avec un certain nombre de déclarations sur les talibans devant être inclusifs, etc. Je me demande si M. Le Drian, en tant que ministre des Affaires étrangères, n'a pas fait son temps. Voilà, je me permets de poser cette question.
Karim Zeribi, un tout petit mot.
Surtout que sur la scène internationale, on ne pèse pas comme on le prétend. Donc c'est surtout ça, le jeu se fait quand même entre les grandes puissances, que sont les États-Unis, qu'est la Chine, que la Russie, et nous sommes, j'allais dire, un peu une forme de variable d'ajustement, de temps en temps, on fait avec la France, on fait avec l'Union européenne, mais on voit bien qu'il n'y a pas de politique étrangère au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de politique de défense au sein de l'Union européenne, donc ce continent ne fait pas le contrepoids aux autres continents qui pèsent et qui se bagarrent. Donc, et finalement, la France, quand elle doit être sacrifiée, du point de vue des Américains ou des Chinois, elle est sacrifiée.
Ok, allez, on va passer maintenant au pass sanitaire, comme on a entendu le président Macron il y a quelques instants. Il confirme effectivement qu'il y a une embellie sur le front de l'épidémie et qu'on peut rêver un jour d'un retour à la vie normale. On va écouter le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui lui dit qu'il n'est pas fétichiste du pass sanitaire.
C'est le même pragmatisme qui, évidemment, comme l'a dit le président de la République, nous permettra d'évoluer et d'alléger les contraintes lorsque ce sera possible. Encore une fois, on n'est pas fétichiste du pass sanitaire. Je peux vous dire que si on pouvait se passer du pass sanitaire, on s'en passerait. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de pass sanitaire, mais parce qu'il n'y aurait pas de virus non plus.
Voilà, mais on n'est pas dans un monde idéal. Patrick Karam, de la région Île-de-France. Est-ce qu'on va un jour se débarrasser du pass sanitaire? C'est un peu quand même ce que nous a laissé entrevoir le président Macron, le retour à la vie normale.
Oui, en juin, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit d'autres choses, évidemment. Non, mais il avait dit, exactement dit ça, ça y est, on peut revivre et tout peut aller bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, il a été obligé de durcir...
Les jours heureux.
Et il a été obligé de durcir le ton, tout simplement, parce que le variant nous a rattrapés. Ce que je veux dire, c'est qu'il gère au jour le jour. Et on ne peut pas jeter la pierre au gouvernement français, parce qu'ils essayent... Je suis très critique sur toute une série de sujets. Mais sur cette gestion-là, il faut quand même qu'on se dise que tous les gouvernements sont à la ramasse là-dessus. Et aucun n'a la solution. Et donc, sur cette question, effectivement, le sujet, c'est qu'on est à la merci de nouveaux variants. Si ce variant-là disparaît comme ça semble être le cas, qu'on n'a pas de nouveaux variants, effectivement, on peut aller vers des jours heureux. Je ne le crois pas. Tant que la population mondiale ne sera pas vaccinée, et c'est le cas aujourd'hui, de nouveaux virus vont émerger dans les pays les moins vaccinés. Vous savez, la mondialisation fait qu'on sera forcément impacté. Eh bien, nous sommes à la merci, effectivement, de nouvelles épisodes.
Joseph Massescaron.
Et aussi, pardon, tant qu'on ne saura pas exactement ce qui s'est passé dans un laboratoire ou pas de Wuhan. Voilà.
Tant
que l'OMS n'aura pas la possibilité de consulter les dossiers et les données. Mmh. Depuis le début. C'est-à-dire depuis le début, on est suspendu à cette question. Mmh. Voilà. Donc, tant qu'on sera dans ce cadre, il n'y aura pas de retour à la vie dite normale.
Sur les annonces du président de la République,
sur le pass sanitaire,
les Français ont appris une chose depuis 18 mois, même si on a appris beaucoup de choses sur le plan sanitaire et la manière de se contaminer ou pas, mais on a appris la prudence. Mmh. Ça, c'est certain. La prudence face aux annonces, à la fois politiques, mais aussi sanitaires, et émanant de médecins éminents parfois, qui se sont contredits et ont dit tout à leur contraire.
Et ont été contredits parfois même par la situation sanitaire sur le terrain.
Surtout face à la situation sanitaire par le terrain, parce qu'il y a que ça de vrai, c'est la réalité du terrain. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que... Je ne pense pas qu'il y aura d'enthousiasme, Béa, du côté des Français. Mmh. Les Français resteront prudents. Mmh. Les Français vont entrevoir l'automne avec une attention particulière. Et si on sort de cette période-là, de l'automne, pour entrer dans un hiver, on va dire, allez, plutôt en bonne posture, alors peut-être qu'une lueur d'espoir durable pourra apparaître. Mais pas d'ici là. Je n'y crois pas. Parce qu'on nous a tout dit. La rentrée risque d'être difficile. La rentrée, on vient de la passer, elle se passe plutôt pas mal. Maintenant, on nous dit c'est peut-être l'automne et le changement climatique.
Attendez, donc, je vais juste donner la parole à...
Il faut rester prudent.
Vous devriez dire quand même les résultats sont au rendez-vous.
Prisca Thévenot, La République en marche.
Voilà. Le sujet, comme l'a répété le président de la République, le pass sanitaire n'est pas un objectif en soi. Donc il s'agit bien d'un outil à disposition pour limiter la circulation du virus et bien évidemment participer à la campagne de vaccination et propulser ce déclic. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. On l'a vu dans les jours qui ont suivi la déclaration du président de la République sur le pass sanitaire. Il y a eu des millions de prises de rendez-vous pour des premières injections. Donc ça, effectivement, c'est un premier pas. Maintenant, il faut, je vous rejoins complètement, continuer à espérer que nous allons dans le bon sens, les indicateurs sanitaires le montrent, mais en continuant à rester prudent, parce qu'il faut bien être clair que le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain et que nous devons continuer à faire attention, ce que nous faisons globalement tous depuis 18 mois.
Patrick Karam, un dernier mot, rapidement.
Oui, rapidement, mettre un bémol à tout cet optimisme. Vous savez, les coûts en accordéon, c'est épuisant. Si les Français ont mal réagi, s'il y a autant de manifestations, si la France est fracturée aujourd'hui entre une portion qui refuse, et moi je le vois aussi en Outre-mer, le pass sanitaire, c'est parce qu'on a été trop optimiste. Je crois que le président de la République, comme le ministre de la Santé, comme le porte-parole, devrait être plus raisonnable dans la communication. Il ne faut pas laisser trop d'espoir quand après, il y a risque que tout se referme.
Et là, c'est vrai qu'il a laissé un peu d'espoir aux Français.
Communication du stop and go depuis le départ. Ouais. Ça veut dire, on y croit, ça va mieux, puis attention, ça devient grave, puis non, mais finalement, on a des résultats positifs. Attention, le tsunami peut arriver. C'est le stop and go permanent depuis 18 ans.
On va continuer sur ce sujet dans un instant. On fait une petite pause, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. Vous aurez la parole, Prisca Thévenot. On évoquera aussi le personnel soignant qui s'est fait vacciner. Aujourd'hui, il y a 0,1% des soignants qui ne sont pas vaccinés, ce qui est très peu au regard des 2 700 000 qu'ils représentent. A tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et on reprend notre discussion dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Prisca Thévenot de La République En Marche. C'est vrai qu'il y a un espoir qui nous a été fait miroiter par le président Macron, là, ce retour à la vie normale, ce pass sanitaire qu'on pourrait bientôt abandonner. Est-ce que, encore une fois, il n'a pas donné un peu trop d'espoir aux Français aujourd'hui?
Ah, j'espère pas. Mais plus qu'un espoir, il s'agit de rendre compte d'une situation sanitaire sur la base de chiffres. Et j'aimerais rappeler aussi que le président de la République en ce moment est énormément à la rencontre des Françaises et des Français, et que c'est lors d'une rencontre qu'il a été interpellé à très juste titre. Non mais attendez, le président reste le président de la République. Je réponds à la question, mais si vous voulez, oui, il y a une élection présidentielle en 2022 et il faut que les Français aillent voter.
On avance, vous voulez rajouter quelque chose, Joseph Mascaron? Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à la situation dans le nord des quartiers de Paris, avec notamment le Jardin des Halles. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois, vous savez, c'est cet endroit où les crackers, ce qu'on appelle ces toxicomanes accros au crack, se réunissent. Ils ont d'abord, dans un premier temps, été rassemblés par la mairie dans le Jardin des Halles, qui est un jardin pour enfants. Puis maintenant, ils sont à l'extérieur. Et il n'y a pas de solution qui arrive à se dégager. D'une côté, avec la mairie, la préfecture, l'État, rien n'est fait pour les habitants. Regardez, écoutez surtout ce reportage de Sophia Rousseau et Fabrice Elsner.
Autour des Jardins des Halles, la situation ne fait qu'empirer selon les riverains. Ils nous parlent désormais d'un village du crack, avec ses tentes, ses barnums et des toxicomanes par centaines. Un territoire qui, selon ce riverain, est totalement laissé à l'abandon par les forces de l'ordre.
Ils ne dorment plus la nuit à cause du bruit, à cause des bagarres, qui pour certains d'entre eux se sont fait eux-mêmes agresser, continuent à se faire agresser. Pour certains d'entre eux ont peur pour leurs enfants parce qu'ils doivent passer devant un camp de toxicomanes qui compte plusieurs centaines d'individus pour les amener à l'école. Les enfants voient les gens se droguer en plein jour, voient les gens avec parfois des membres gangrénés. La saleté, elle est à un niveau inimaginable.
Et le maire du 19e arrondissement en appelle maintenant à l'État. Il réclame une opération d'évacuation et de mise à l'abri des toxicomanes, ainsi qu'une action plus répressive à l'égard des dealers.
Je demande en effet à l'État, et en l'occurrence en représentant le préfet de région, une opération d'évacuation parce que ça ne peut pas rester en l'État.
La maire de Paris accuse elle aussi le gouvernement de ne pas trouver de solution. Pourtant, en juin dernier, le préfet de police déclarait:
je suis à votre disposition pour identifier ce lieu en vous renouvelant la proposition que je vous avais déjà faite de retenir de façon aussi temporaire la place Auguste Baron. Je suis ouvert à l'étude d'autres localisations que vous pourriez préférer dans l'espace parisien.
Un courrier resté lettre morte.
Patrick Caram, vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Comment une telle situation est possible? Depuis des mois et des mois, les habitants tirent la sonnette d'alarme. Chacun se renvoie la balle du côté des pouvoirs publics. C'est absolument intolérable pour ceux qui subissent ce trafic.
C'est invraisemblable pour la sixième puissance économique du monde. Oui. Invraisemblable. Quand on pense à la France, on n'imagine pas qu'une telle zone puisse se déployer avec quelques milliers de personnes sans pouvoir apporter de solutions. J'ai reçu en début de semaine des associations de riverains, y compris Mathieu, que vous avez vu et qui est intervenu. Nous allons à la région prendre l'initiative parce qu'en fait, quand vous discutez avec eux, ils vous disent de manière très claire que la ville de Paris et la préfecture se renvoient la balle. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a un dialogue qui n'est pas réellement aujourd'hui engagé entre ces deux parties. Et qui fait les frais de cette carence-là aujourd'hui? Ce sont les habitants qui sont obligés de quitter ces lieux parce qu'ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs enfants. On ferme des maisons, on déménage. Et ça, c'est absolument tragique. Le sujet, c'est à la fois un sujet sanitaire. Vous voyez, les toxicomanes sont aussi des victimes. Ils sont pris dans un engrenage et on ne fait rien pour les sortir de cet engrenage-là, à part leur proposer des salles de shoot qui va continuer à perpétrer une dépendance. C'est sanitaire et sécuritaire. Sécuritaire, c'est que ces mêmes toxicomanes eux-mêmes deviennent violents, ils peuvent commettre des agressions. Enfin, faut voir tous les témoignages des riverains. Et face à ça, il n'y a pas de véritable décision prise. On les laisse dans la rue, on les laisse aujourd'hui à la vue de tous. On pourrait faire quelque chose de simple. Aller dans un certain nombre d'hôpitaux, monter dans des hôpitaux, des centres de soins où on les internerait. J'utilise le mot pour les sevrer. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner du point de vue sanitaire. C'est des gens qui sont aujourd'hui totalement dépendants de la drogue. Ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. On ne peut pas assister à cette déchéance-là personnelle sans rien faire.
Karim Zeribi.
La région propose quelque chose de très simple. C'est de contribuer à financer des lieux fermés où on va pouvoir
accompagner et sevrer ces personnes-là. Si on laisse des lieux ouverts, c'est dans la salle de shoot, on vient, on prend sa dose, on parle un peu et on repart. Si on laisse ça se perpétuer, on dissémine le problème partout. Alors, en France
Joseph
et à Paris. Pardon.
Vous connaissez bien ces endroits pour y habiter.
J'habite,
hein.
Donc, c'est pour ça, j'habite, je vais souvent voir mon fils qui est à Stalingrad, donc je suis quand même assez sensible à ça parce qu'on voit en effet dans la rue à partir d'une certaine heure les personnes défoncées, extrêmement agressives, souvent agressif d'ailleurs envers des femmes, voilà, et ça c'est vraiment difficile. Il y a toute une partie de Paris qui est devenue Zombieland, hein. Le 10e arrondissement, c'est Zombieland. Et alors Madame Hidalgo trouve tout à fait normal que ce quartier de Paris soit Zombieland.
Zombieland parce qu'ils sont hallucinés, quoi.
Parce qu'ils sont hallucinés, je veux dire, c'est vraiment. Vous les voyez marcher, vous les voyez. C'est terrible pour eux. C'est terrible pour eux, mais c'est d'abord terrible pour les riverains. Quand vous voyez par exemple la salle qui est près de la Riboisière, l'INSERM me dit, le rapport de l'INSERM, tout va bien. Tout va bien. Bah, je suis désolé, les riverains ne considèrent pas que tout va bien et que la police elle-même n'ose pas intervenir. Tout simplement, parce qu'ils se disent, bon, en plus, s'il y a des problèmes et autres, il va y avoir des gens qui vont nous prendre, nous filmer, et évidemment, ça va être parti. Donc, on leur dit plutôt, essayez de ne pas intervenir. Donc, il y a une partie de Paris, qui est le 10e arrondissement, Gare du Nord, Gare de l'Est, Stalingrad, Janaïol, qui est vraiment au-delà du droit, au-delà de tout. C'est totalement surréaliste. On a parlé très justement de la 6e puissance mondiale. Je ne sais pas d'ailleurs si on est ici maintenant 6e, 7e, 8e, que sais-je, avec le déclin français. Mais cela dit, c'est vraiment totalement indigne. Mmh. Cette situation est totalement indigne.
Karim Zerabi.
Il y a deux sujets qu'il faut traiter tel qu'il se doit au regard de l'urgence de la situation. Le premier sujet, c'est mettre fin à cette situation, à ces trafics, à ces dealers, à des zones qui ne sont plus des zones habitables et fréquentables pour les habitants et leurs familles. Donc ce sont des no man's land, donc, où on a le sentiment d'être en insécurité permanente parce que les institutions républicaines semblent impuissantes. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, au nord de Paris, ou quel que soit, sur quelque territoire national que ce soit, ça n'est pas acceptable. Et puis le deuxième sujet, c'est création ou pas, et si création ou de nouvelles salles de shoot, avec la pertinence qui doit mener à cette réflexion, le bon sens qui doit mener à cette réflexion, et la concertation qui doit découler de cette volonté. Or, aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. On a des institutions républicaines qui semblent se renvoyer la patate chaude. Et ça, je vous le dis, ça éloigne le citoyen du politique au sens noble du terme. Il y a une désaffection toujours plus croissante, il y a une désespérance, il y a une colère. Tout, sauf la réhabilitation du politique. La mairesse Hidalgo, qui est candidate à la présidentielle, c'est quand même fort de café. Vous n'arrivez pas à gérer deux arrondissements de votre ville et vous voulez gérer le pays. Mais c'est ça l'image que ça renvoie, moi je vous le dis tranquillement. Donc, et de l'autre côté, vous avez l'État qui dit, je fais une lettre à la mairesse pour lui demander. C'est surtout un homme libre, un républicain avant tout. Et vous avez le préfet qui dit, le préfet allemand, qui adresse un courrier en disant, mais si vous voulez, nous sommes à disposition. Mais si vous voulez quoi? Vous êtes le préfet de police. Il n'y a pas si vous voulez. Vous intervenez parce que c'est absolument nécessaire. Donc cette impuissance-là, elle est insupportable. Moi, quand je vois la République affaiblie, Laurence, je me mets en colère et je pense à ses habitants.
Alors, mais à chaque fois, il y a une méthode Hidalgo dès qu'il y a un problème qui consiste à se mettre derrière l'État. Hein, à chaque fois.
Je veux dire, qu'elle a créé, quel procès, elle se met derrière l'État.
Voilà, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il s'agisse de ce problème-là dont on parle ou des autres. C'est à chaque fois la même méthode. C'est vraiment une sorte de courage fillon. Il y a en effet des propositions, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Karim Zerabi. On peut ajouter, bien sûr, la question de la police municipale. Enfin, c'est évident, parce que puisqu'on parle d'urgence, il y a une nécessité, là, je disais, justement, pour la Riboisière ou autre, enfin, il y a quand même une police municipale qui devrait pouvoir intervenir, qui devrait, au minimum, pour sécuriser les citoyens.
Bien sûr. Prescatez-nous de la République en marche.
Oui, je me permets, c'est juste, plutôt que dans le cas d'espèce-là, c'est pas de se renvoyer la balle entre la mairie de Paris et l'État. En l'occurrence, la mairie de Paris a vraiment fermé les oreilles et fermé les yeux sur ce sujet pendant très longtemps. Et effectivement, il y a eu des propositions de fait, et sans faire d'ingérence, sur la sécurité. Notamment, vous parliez très justement de la police municipale. La police municipale à Paris ne pouvait pas être mise en place parce que la maire s'y opposait. Ça a été voté à l'Assemblée nationale en majorité grâce aux parlementaires de La République En Marche. Et la police municipale n'est toujours pas mise en place.
Et dans le cas... Et en la police municipale que le préfet de police ne peut pas intervenir.
Non, mais justement,
on a des délits sur la voie publique.
Vous avez raison. Et vous avez, vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a dépêché des forces de l'ordre dans ces quartiers précisément pour limiter les trafics. Premièrement, en mettant hors de nuire les trafiquants. Mais il faut aussi une volonté. Mais il faut aussi, une volonté de la maire de Paris. Et là, très clairement, hein, je ne suis pas du Parti socialiste, mais il faut dire que là, elle semble potentiellement avoir retrouvé le chemin du dialogue avec l'État. Et ça, il faut s'en féliciter parce que derrière toutes ces éventuelles querelles politiques se cache la vie de dizaines de milliers de personnes qui n'en peuvent plus.
Mais ne faites pas ce qu'elle fait. Ne jetez pas la patate.
C'est pour ça que je suis en train de le dire. C'est pour ça que je suis en train de dire que maintenant, plutôt que de faire le diagnostic de ce qui s'est passé, regardons plutôt devant et espérons que la situation va s'améliorer.
Une question à vous poser.
Patrick Caral et ensuite Joseph.
Juste une question à vous poser. Oui, vous avez raison dans le constat que vous faites de l'incurie de la maire de Paris. C'est insupportable, parce qu'elle était à l'origine du problème, on peut en parler si vous voulez.
Et c'est pas qu'elle crée les toxicomanes,
mais la question que je veux,
faut
si, alors attendez, lorsqu'elle a mis les migrants en 2015, près de la colline du Crac, et qu'ensuite il y avait quelques dizaines de personnes, et qu'ensuite ceux-ci, effectivement, ont pris comme cible les migrants...
La maire de Paris n'est pas à l'origine du trafic de crack dans la capitale, vous le savez parfaitement.
Ce que je dis simplement, c'est qu'elle l'a aggravé. Et elle l'a aggravé avec sa politique qui consiste à créer ce qu'elle a appelé une salle de shoot, qui en fait a dupliqué le problème. Et le fait, aujourd'hui, de se retrouver en situation d'impuissance et de renvoyer la patate chaude à l'État, c'est pas acceptable. Mais quand le préfet de police de Paris ne reçoit pas les associations qui demandent à être reçues, comment vous appelez ça, vous ? C'est pas un manque de dialogue ? Quand il ferme la porte totalement à ces associations, c'est pas aussi du côté de l'État un aveu, une inconscience ?
Non, vous avez deux, enfin, en effet, vous avez le face-à-face entre deux personnes qui sont l'un qui est droit dans ses bottes, de la manière la plus caricaturale qui soit, hein,
et l'autre
dont le logiciel politique est le même que celui de Lionel Jospin. Donc, elle considère totalement, elle le croit fondamentalement, que la sécurité, ou ces questions-là, c'est une question d'extrême droite. Depuis le début, d'ailleurs, elle le dit, elle ne s'en cache pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un dialogue de sourds. Et évidemment, bien sûr, c'est les riverains qui payent.
Karim Zeribi.
Non, je pense que ce n'est pas le logiciel qui dit question d'extrême droite, Joseph. Je pense que c'est une... Non, crois-moi, c'est une vieille manière. C'est une vieille manière d'interpréter le rôle de maire. Jean-Claude Gaudin, il disait la même chose. Excuse-moi, il n'est pas au Parti Socialiste, il n'était pas écolo. Moi, j'étais au conseil municipal de la ville de Marseille. Il disait sur les questions de sécurité, c'est l'affaire de l'État. Et ce temps-là est révolu. Quelle que soit l'étiquette politique du maire, on ne peut plus balayer de revers de main l'idée que c'est une affaire collective et que chacun doit porter sa part.
La vidéoprotection, elle disait, ça n'existait pas.
La vidéoprotection, la ville peut prendre des initiatives. La police municipale, la ville peut prendre des initiatives. Mettre sur la voie publique donc des éducateurs, des choses, la ville peut prendre des initiatives. Et l'État doit apporter des moyens de police nationale, des polices de force de service d'investigation pour mettre à mal les dealers. Donc c'est une affaire collective. Or aujourd'hui, personne n'assume sa responsabilité. C'est ça le drame des habitants. Mais imaginez-vous les habitants du 10e. Mais ils ont l'impression d'être traités comme des moins que rien, des sous-citoyens. Parce qu'on habite le 10e ou le 20e, on n'a pas droit à la police ni nationale, ni municipale, ni à la vidéoprotection, ni à avoir des jardins publics propres pour promener nos enfants. Mais c'est insupportable ce cas de figure-là.
On n'a même pas le droit
c'est
à la police.
C'est insupportable,
élémentaire. Quand vous passez avec vos gamins et que vous voyez des personnes shootées, vous voyez des seringues, vous voyez des agressions devant vous, vous croyez que vous pouvez vivre comme ça ? Mais moi, je dis aux maires qui ont accepté cette situation-là d'aller s'installer dans ce site-là et de vivre au milieu des migrants.
Il y a aussi, Joseph Massescaron, une aggravation du phénomène parce qu'il y a de plus en plus de toxicomanes. Évidemment, dans le nord de Paris, avec parfois des migrants qui viennent ici en déshérence et qui tombent dans les filets des trafiquants de drogue. Donc, petit à petit, il y a eu de plus en plus de toxicomanes au fil des années.
Il y en a de plus en plus. C'est ce que, quand je parlais de Zombieland, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème. Il y a un écosystème du crack, il y a un écosystème des trafics qui s'est progressivement mis en place et on a laissé ça se faire. Et on a laissé ça se faire aussi parce que c'est vrai. C'est-à-dire que les Madame Hidalgo et les autres, ils n'habitent pas cet endroit. Voilà. Donc ils n'ont pas à subir, évidemment, ils n'ont pas à subir ces attaques permanentes de voilà, et ces nuisances permanentes. Et ça, il y a vraiment un abandon. C'est-à-dire qu'il y a un abandon. On parle très, très souvent de territoires abandonnés de la République. Là, pour le coup, il est au cœur de Paris.
Capitale de la France.
Et juste... Il n'y a pas un événement bientôt à Paris ? qui concerne Paris,
ah bah, un événement sportif, les Jeux Olympiques.
Un événement sportif comme ça quelque part.
Mais ça se passe pas dans le 18e ou le 19e.
Non, mais ni dans le 20e. Et c'est ce que j'allais dire. Voilà. Bien sûr, ça se passe évidemment bien sûr ailleurs. Voilà.
Parce que
Paris de plus en plus avec vu par Madame Hidalgo, c'est le village Potemkin avec un faux semblant.
Ça me rappelle Notre-Dame de Victor Hugo avec ces rues de Paris qui étaient des ruelles, qui pouvaient être des coupes-gorges, etc. En réalité, on revient à une époque qu'on croyait avoir oubliée au XXIe siècle. Et le sujet, il faut être très clair là-dessus et très simple. Il faut partir de la volonté des habitants. Est-ce que oui ou non, on peut vivre tranquillement? On paye ses impôts, on est honnête citoyen, on essaie d'emmener ses gamins à l'école, on essaie de travailler. Est-ce qu'on peut avoir une vie décente quand on se lève le matin avec la peur au ventre, quand on doit partir la peur au ventre, on a peur pour soi, on a peur pour ses enfants, et qu'on revient le soir en repassant par les mêmes circuits, en ayant même peur d'être agressé dans son hall d'immeuble. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Et que dit Madame Hidalgo à tout cela? Ben, je vais disséminer des salles de shoot. Alors maintenant, elle appelle ça.
L'État les a agréées,
mais moi, je vais vous dire, elle va faire que disséminer le problème. Et elle va renforcer les problèmes ailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'elle a fait ça, vous avez des gens qui se sont installés.
Elle
va le mettre, elle va le mettre un peu partout. Okay. Et ça va créer d'autres problèmes. Je prends date aujourd'hui avec vous. Mmh. On en reparle si elle fait ça dans un an. Et vous verrez que le phénomène aura atteint un autre stade.
Karim, moi, ce qui me frappe, Laurence, c'est qu'il y a une forme d'irresponsabilité politique à accepter une conjonction de problématiques très lourdes. La problématique de la pauvreté, des poches de pauvreté sont dans ces arrondissements. Les poches de délinquance sont dans ces arrondissements. Les migrants qui sont dans un tel non-vans land sont dans ces arrondissements. Et quand vous faites la conjonction de toutes ces problématiques, ben vous avez face à vous une forme de tsunami de problématiques à traiter. Mais pourquoi? Parce que vous ne les avez pas traitées initialement. Et vous avez laissé pourrir la situation tel un territoire où la déchéance trouve sa place et prend sa place durablement. C'est pas acceptable. Il y a une responsabilité républicaine de tous les élus, quelle que soit leur étiquette.
On va faire une petite pause. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer un autre fléau français, la fraude sociale, notamment les fraudes à la carte vitale. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerébi, avec Patrick Karam, vice-président de la région Île-de-France, Joseph Massescaron qui est écrivain, Prisca Thévenot de La République en Marche. On va évoquer un autre fléau français, la fraude sociale. On a beaucoup de mal à estimer avec des chiffres très précis cette fraude sociale qui recouvre de multiples visages. On va évoquer la fraude à la carte vitale parce que là, pour le coup, on a quand même des chiffres qui viennent de l'assurance maladie. Michel Barnier, l'un des candidats à la présidentielle à droite, a proposé qu'on numérise les cartes vitales dans notre pays pour qu'on sache au moins où on en est. Avant de lancer le débat, j'aimerais qu'on écoute avec Victor Chabert le point sur le nombre de vraies fausses cartes vitales qui sont en circulation dans notre pays, Victor.
Eh bien, Laurence, selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la fraude sociale de septembre 2020, il y aurait bien plus de cartes vitales en circulation que de personnes résidant en France, un écart estimé à 1 800 000. De nombreuses questions restent sans réponse, notamment sur les cartes vitales actives attribuées à des personnes nées à l'étranger. Leur gestionnaire, le directeur général du groupe Sésame Vital, n'a pas su dire combien étaient en circulation. Si on élargit maintenant à toutes les personnes ayant des droits ouverts à l'assurance maladie, qui peuvent par exemple se faire rembourser des soins. Le chiffre est encore différent. Selon la Cour des comptes, nous aurions 75 millions d'assurés sociaux en France pour 67 millions d'habitants. On a donc 8 millions de personnes prises en charge alors qu'elles ne devraient pas l'être. Difficile de chiffrer le coût de cette fraude sociale. Le rapporteur de la commission parlementaire l'estime entre 14 et 45 milliards d'euros par an.
Merci beaucoup pour ces chiffres, Victor Chabert. Charles Bratz, magistrat, a pris ce dossier à bras-le-corps. Patrick Karam, c'est quand même insensé que dans notre pays, on n'ait pas le même nombre d'habitants et le même nombre de cartes vitales. Comment remédier à ce fléau?
Mais Charles Bratz, non seulement a pris ce problème à bras-le-corps, mais il dénonce aussi une volonté de mettre tout ça sous le tapis.
Pourquoi?
C'est ça qui est aussi grave.
Pourquoi?
Eh bien, c'est toute la question qu'il faut poser à ceux, et il cite un certain nombre de structures et de personnes à ceux qui ne veulent pas faire apparaître la réalité des chiffres. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça fait des années que Charles Prat et d'autres Je pense au commissaire Geoffroy Fougeret, qui a écrit un bouquin déjà en 2007 sur la fraude, 2006 ou 2007, sur la fraude sociale. Ça fait des années que ceux qui travaillent sur la question le dénoncent. Et là, aujourd'hui, on a face à nous une administration, celle qui travaille sur le social, qui ne bouge
mais
pas.
Pourquoi on ne veut pas avoir cette réalité
nombre,
en face?
On
c'est
a
ça
un
que
nombre de
pas.
Centenaires invraisemblables en France. Invraisemblable à croire qu'une grande partie des Français sont centenaires. Certains auraient même atteint 130 ans ou 140 ans. C'est assez édifiant. On a effectivement, vous avez parlé de l'assurance, il faut aussi parler du chiffrage. Là, on vous donne une fourchette.
14 à 45 millions.
Vous rendez compte du différentiel? Chartres, lui, il dit entre 60 milliards et 80 milliards d'euros. Moi, je trouve qu'en France, dans un pays aussi technocratique, aussi administratif et aussi administré, invraisemblable, il est invraisemblable de ne pas savoir aujourd'hui quel est le montant de la fraude sociale et qu'on ne réagissent pas depuis toutes ces années-là. J'ajoute que Charpret est courageux. Je veux lui dire mon soutien, parce qu'il fait l'objet de pression de tous les côtés. J'en dirai pas plus. Si un jour ils vont en parler, ce sera son affaire.
Prisca Thévenot, pourquoi il n'y a pas de mesure, effectivement, pour tenter de juguler ces fraudes, que ce soit des fraudes aux aides sociales, des fraudes à la carte vitale, il y en a de toutes sortes.
Bien sûr, mais en fait, sur le sujet de la fraude en général, personne n'a intérêt à laisser perdurer la fraude en France. Ce sont quand même des millions, voire des milliards d'euros qui peuvent partir de l'utilisation, entre guillemets, logique dans le bon fonctionnement d'un État. Donc personne, mais quel que soit le parti, quel que soit le mouvement, c'est quelque chose de républicain. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi dans le cas d'espèce que je ne connais pas particulièrement ce dossier, mais c'est effectivement voir les droits qui sont ouverts et effectivement utilisés. Je vais vous citer un exemple très concret sans venir dire qu'il ne faut pas regarder ce problème et le minimiser. Pas du tout. Hein. Mais par exemple, moi, je sais que il y a quelques années, quand mon père est décédé, sa carte vitale était toujours active. Et je m'en suis rendu compte un peu par hasard, un an après. Je peux vous rassurer, je ne me suis pas servi de ces droits ou des droits qui étaient ouverts, mais ils étaient toujours ouverts.
Donc ça pose
la question, effectivement, de bien sécuriser le moment où les droits doivent être coupés et les cartes...
75 millions de cartes vitales pour 67 millions de Français.
D'autres continuent de se servir de cette carte, d'autres continuent de recevoir les pensions retraites, d'autres continuent...
Ça pose des questions sur le fonctionnement et la...
Il y avait même un des fondateurs de l'État islamique en Belgique qui avait réussi à frauder la CAF.
On se rappelle ça.
Et de manière un peu massive, il n'était pas le seul. Beaucoup de djihadistes qui étaient en Syrie et en Irak continuaient de percevoir des allocations en France. Ils combattaient la France, pays impie, mais la France leur donnait de l'argent qui était envoyé par les familles. Et certaines familles se sont retrouvées en examen parce qu'on s'est aperçu de cette complicité.
Anomalie
parce que c'est une complicité. C'est pas une anomalie. Quand vous percevez des allocations sociales pour un mec qui combat la France, qui fait son djihad en Irak et en Syrie, c'est que vous êtes complice.
Mais dès que ça a été vu, ça a été...
Karim Zerbi, là-dessus, sur la fraude sociale. Allez-y.
Moi, ce que je note, c'est qu'il y a des sujets comme ça qui reviennent dans le débat politique français.
Ça s'appelle des marronniers.
Des marronniers. Et ça fait, quand on est passionné de politique comme je le suis, j'allais dire plusieurs décennies quasiment, qu'on revient toujours sur ces sujets sans en apporter de réponses concrètes et ni de règlement. Et donc, ils reviennent, tels des marronniers.
Donc là, il y a une proposition.
Et en fonction des fonds de commerce, Laurence. Parce que les uns vont s'attaquer plutôt à la fraude fiscale, évasion fiscale, en fonction de leur sensibilité politique, et les autres, plutôt à la fraude sociale. Moi, je vais vous dire, pour moi, les deux sont d'une gravité qui met en danger, je dirais, notre conception de la République. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays généreux, et on le sait, en termes d'aide sociale, de prestations, de remboursement santé, ce ne sont peut-être un des pays les plus généreux au monde. Donc, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, si on ne résout pas ces problèmes-là, on va creuser des déficits et, derrière, amoindrir toujours et encore des droits donc, à ceux qui en acceptent les devoirs. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer de manière farouche avec les outils liés à la nouvelle technologie. On est quand même à l'ère où on peut faire, je dirais, du tracing, du contrôle, quand on veut. Quand on veut, on peut. Là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment. Donc, pour moi, il faut combattre avec la même force l'évasion fiscale, qui met à mal le budget de l'État, et les prestations sociales, si on veut, je dirais, faire perdurer notre système social avec la vision républicaine qui est la mienne, c'est-à-dire une vision dite de solidarité. Sinon, demain, on va remettre en cause des pans entiers de solidarité parce qu'il y aura des profiteurs et il y aura des resquilleurs qui l'auront mis à mal, ce
système.
Joseph
Massescaro.
Oui, ça tombe bien, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que pour moi, allez-y. Un problème après l'autre. C'est-à-dire que là, on parle de prestations sociales, c'est parler tout de suite immédiatement d'évasion fiscale, qui est scandaleux, etc. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Il y a une proposition dont vous avez parlé, celle de Michel Barnier.
Mais hein, simple. On numérise toutes les cartes. On récupère toutes les cartes vitales et on les numérise.
Le rapport parlementaire l'a fait. Mais pardon,
il n'est pas candidat.
Désolé de donner mon avis dessus, mais vous lisez, la commission d'enquête parlementaire a fait cette proposition. Okay, vous l'avez les
oui,
autres.
Mais là l'intérêt, c'est pour ça que Laurence Ferrari en parle, pardon, c'est que c'est un candidat à la primaire, hein, à votre primaire, enfin peut-être, si la primaire a lieu. Donc, simplement, moi, ce qui me frappe quand même, le budget, ce budget des prestations sociales, 521 milliards. 521 milliards.
Ça donne le tournis. Hein.
21,5% de notre PIB et nous ne sommes pas capables de contrôler ça.
Contrôler, voilà.
De contrôler.
C'est le mot. Il n'y a pas de contrôle.
Nous avons, non pas l'administration, mais la bureaucratie la plus démente du monde, d'accord, une des plus démentes du monde, à part celle de la Corée du Nord. Et en fait, nous ne sommes même pas capables de contrôler le fait que ce budget absolument énorme, d'accord, est resté à l'encontre. Alors, vous avez raison, vous l'avez rappelé, il y a en effet la carte vitale, mais il y a aussi les fausses factures, enfin, etc. etc. Il y a tout un ensemble, et pas simplement la carte vitale. Et la directrice de la Sécurité sociale qui est intervenue, qui a été souvent interrogée par la commission parlementaire, notamment au Sénat, disait oui, elle reconnaissait elle-même qu'il y avait plus de 2 millions et de trop, quoi.
De
voilà.
Trop.
Donc, de cartes en circulation de trop. Et elle disait, donnez-moi en tout cas les moyens de pouvoir agir sur ce sujet. Donc, il y a évidemment un point qui est un scandale majeur. Et là, pour le coup, puisqu'on parle de présidentielle souvent et de primaire, il y a une proposition.
Tant mieux que les candidats s'en saisissent, Patrick Carat, sujet.
Je suis 100% d'accord, 100% d'accord, 100% d'accord avec vous. Je dis simplement aussi que ceux qui gèrent cette prestation sociale ne sont pas au clair. Ce que raconte dans son livre, et que j'ai lu avec
Charles Prat,
c'est que il y a eu des déclarations contradictoires devant la commission d'enquête parlementaire. C'est-à-dire que certaines personnes se sont contredites allègrement d'une audition à l'autre. Ça pose un véritable problème. Et la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Et bien pour ça, seul le politique peut le déterminer. Mais il faut avoir le courage de mettre les pieds dans le plat et pas avoir peur de se dire on risque de stigmatiser telle ou telle communauté.
Un dernier mot, Karim, là-dessus, parce qu'après on avance, on va écouter le président Macron.
Je pense sur la fraude sociale. Donc, parce que là encore, si on tombe dans le déterminisme communautaire, on ne s'en sortira pas. Luttons contre la fraude et les fraudeurs.
C'est le discours que tiennent eux-mêmes, et je vous invite à lire l'ouvrage, le discours que tiennent eux-mêmes certains responsables en disant il faut faire très attention à ne pas entrer dans une stigmatisation.
Mais parce qu'il faut lutter contre les fraudeurs, tout simplement, et pas contre une communauté.
Mais
je voudrais revenir sur ce que
rapido, on va écouter Emmanuel Macron.
Ce que disait mon ami Massescaro, je suis effaré moi d'entendre dire qu'il se réjouit de la proposition de Michel Barnier, qui a été ministre, qui a été député, qui a été commissaire européen, qui est en campagne et qui nous fait une proposition et que tu as envie d'attraper au vol comme ça. Mais en fait, il faut qu'on arrête de faire des propositions de campagne. Il va falloir qu'à un moment donné, on passe un peu aux actes, non ? Donc sur ce marronnier. Donc Michel Barnier, il ne pouvait pas être un peu plus offensif quand il était en responsabilité ? À la fois au Front National Européen.
Mais franchement, soyons sérieux.
Je ne vois pas qu'il ait eu ce dossier.
Que ce soit Michel Barnier,
Pierre-Paul Jacques, moi, peu m'importe. C'est Emmanuel Macron, peu m'importe. Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc. C'est qu'on fasse ce type de proposition.
Là, il y a tout le monde là.
Non, mais vraiment, tout le monde est là. C'est qu'on fasse ce type de proposition. Parce que, encore une fois, là, pour le coup, je suis d'accord avec Anjabi, c'est-à-dire que cette idée de numérisation de la carte vitale, moi, ça fait 15 ans que j'entends. Mais c'est la première fois que je la vois surgir à la veille d'une élection présidentielle. Donc, ça montre en tout cas l'importance.
Avec les propositions et la parlotte, il faut agir sur ces sujets.
Karim, on va parce avoir que... 7 mois de parlotte. Là,
oui, justement, c'est ça qui va
me... Mais si,
parce que ce qu'il faut demander aux responsables politiques, c'est d'agir dans le cadre d'un mandat, et surtout en début de mandat, et pas nous faire des promesses à la fin des mandats. Parce que si vous voulez éloigner les citoyens du politique... Continuons comme ça.
Allez, on va écouter. Tiens, Emmanuel Macron, il était tout à l'heure à l'Arc de Triomphe, qui, vous le savez peut-être, a été emballé. C'est une œuvre posthume de l'artiste Christo, emballée avec des grandes bâches. C'est une œuvre artistique. Et il a parlé de ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes, parce que cet Arc de Triomphe, évidemment, vous vous en rappelez, avait été saccagé. Écoutez Emmanuel Macron.
Il y en a tous ces images de sauvagerie qui avaient ravagé ce lieu et qui nous avaient tous heurtés. Et non seulement vous avez réparé, mais vous avez porté ce projet pour qu'on réinvente l'Arc de Triomphe, qui est un lieu absolument unique et qui n'est pas qu'un lieu de culture, d'art, mais un lieu de mémoire, d'histoire et un lieu militaire.
Voilà, donc pour cet Arc de Triomphe, un tout petit mot de Prescatev de La République En Marche. C'est important de rappeler ce qui s'est passé, évidemment, au moment des épisodes Gilets jaunes.
Ça nous avait tous extrêmement choqués, la classe politique, mais de toute façon l'ensemble des Français, s'était indigné par rapport à ce qui s'était passé, c'était extrêmement grave. Et là, effectivement, alors j'entends beaucoup de choses sur le fait que l'Arc de Triomphe soit emballé, soit, entre guillemets, j'entends caché. Rappelons que c'est une œuvre éphémère, que c'est une œuvre culturelle, que ça
revient aussi... entièrement par les... par Christo, hein, par les...
Et, voilà, et que ça ne relève pas de l'argent public.
Absolument. Ouais, alors, bon. Patrick Karam.
Il y a deux saccages. Il y a eu le saccage des Gilets jaunes et il y a le moment
où c'est saccage. Vous qui êtes amoureux de l'art.
Non, mais c'est abominable.
Non, mais nous ou des personnes autour de cette table.
Pas tous en même temps. Pour nos auditeurs, c'est incompréhensible.
Je vais vous offrir un sac de patates, de pommes de terre. Je vais vous dire, habillez-vous avec. Et on va vous dire, c'est de l'art. C'est de l'art.
Mais ne soyez pas primaire comme ça.
Non, mais parce que c'est de l'art. Parce que c'est de l'art, on doit accepter tout et n'importe quoi. C'est pas sérieux, très franchement.
Mais quand on a emballé le Pont-Neuf, vous n'avez pas hurlé avec les loups.
Je suis guadeloupéen, j'aime ma petite île. Je suis arrivé à Paris, j'ai rêvé devant Paris. Oui. J'ai rêvé devant les grands monuments. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois une sac de patates qui habille l'Arc de Triomphe. Et on m'explique que c'est de l'art. Excusez-moi, mais c'est exactement la même chose.
C'est exactement les touristes qui arrivent.
Mais il y en a qui trouvent ça magnifique.
Il y a des touristes qui
exactement. Ils vont dire que c'est en travaux. Donc ça c'est
donc
le sujet si vous voulez c'est que Hidalgo a fait la même chose. Regardez
non,
comment
arrêtez
elle a défiguré
avec Anne Hidalgo,
Paris.
Vous êtes obsédé a... mon cher.
Ah non mais elle m'obsède en bien.
Non mais oui mais
elle m'obsède en bien et je vais vous dire lorsque elle a enlevé les bancs traditionnels pour mettre des espèces de planches. Lorsqu'elle a retiré toute une série de fontaines. Ben pardon, excusez-moi mais elle a défiguré complètement Paris. Et ça fait partie.
On parle de là.
Partie de ces Karim. Choses, excusez-moi, un phallus géant qu'elle a mis je ne sais plus où, elle a appelé ça de l'art. À un moment donné, on arrête d'appeler de l'art des conneries et de la dérive des uns et des
Patrick
autres.
Patrick Karam en mode roue libre. Karim Zeribi.
Non, moi je suis un amoureux de Paris, mais d'un Paris assez traditionnel, je dois le reconnaître. Je suis pas très
Paris
inventif.
Paris des Belvédères.
Je suis pas très inventif, trop inventif à ce niveau-là. L'Arc de Triomphe tel qu'il était, il me plaisait.
Dans 15 jours, vous le reverrez.
Non,
vous inquiétez
mais,
pas.
Non, mais si vous voulez que je vous dise, ce que j'en pense. Je pense que les 14 millions d'euros qui ont permis d'empaqueter l'Arc de Triomphe de cette manière, j'aurais préféré qu'ils soient utilisés pour éventuellement rénover d'autres monuments qui glorifient notre histoire, Paris.
C'est de l'argent privé, c'est pas l'argent d'État.
Mais j'ai le droit de dire que les 14 millions d'argent privé, j'aurais préféré qu'ils aillent à la réfection de
c'était
bâtiments
la volonté
qui embellissent la ville de Paris.
Et sa famille a respecté ses
volontés. Peu importe cette volonté, en tout cas. C'est pourquoi j'ai ce
volonté.
Pourquoi privatiser ce monument public? Il y a un problème qui est un problème fondamental pour le coup. C'est que alors on nous explique, oui, il a voulu faire ceci, il a voulu faire ça. Ouais. Mais là, il n'y a pas d'explication. Il faut arrêter de faire un discours à chaque fois qu'on parle d'art. C'est pas ça. Malraux disait, l'art, c'est quelque chose qui vous arrache et vous porte au-delà de l'œuvre. En quoi, là, ça m'arrache et ça me porte au-delà de l'œuvre? La réponse est non. À chaque fois qu'on est obligé de faire un discours sur l'art, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'art.
Allez, Prisca Thévenot, le dernier mot.
Je suis désolée, je ne suis pas spécialement fan, mais je veux quand même apporter une petite nuance. C'est que, déjà, d'une, c'est éphémère. Et de deux, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, on dirait que c'est juste des draps qui sont posés, j'adore. Mais il y a énormément de travail. Excusez-moi, permettez-moi, je vous ai laissé parler. Il y a énormément d'artisans qui ont travaillé sur ces projets-là.
Oui, ils étaient là autour de Macron.
Et je pense que c'est aussi important aussi de ne pas venir leur cracher à la figure.
On est d'accord.
Allez, le dernier mot.
Un milliardaire se réveille un bon matin et décide avec son fric de faire les choses.
Il y en a qui les envoient dans l'espace.
Non, mais d'accord, ok, il y a un moment donné où on arrête ça. Nos monuments ne sont pas à la merci des puissances d'argent. Et deuxièmement, le président de la République, parce qu'il veut faire jeune, il veut faire moderne, il veut faire ceci et cela, eh bien, il va inaugurer ça. Il sort un discours invraisemblable.
C'est
ridicule. Vous avez dit jusqu'à 14 millions d'euros injectés de manière éphémère. Mais on n'aurait pas pu le faire sur des monuments de manière durable.
On peut dire
pour
ça
les rénover durablement.
On vous mettra pas d'accord sur ce sujet.
Je n'ai pas comparé ça avec des aides sociales.
Je ne pensais pas qu'on partirait aussi loin avec cette œuvre de Christo.
Ils en ont parlé,
ils se sont disputés. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission de Punchline diffusée sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour le journal de 19h et les débats de Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.